Bonjour à tous et merci d'être encore fidèles à ce podcast malgré les 7 mois pendant lesquels il n'a pas été mis à jour. Mais tout va bien pour ceux qui l'ont demandé, simple petit problème de temps. D'ailleurs, entre-temps, d'autres auditeurs nous ont rejoints et j'en profite pour vous inviter à partager, à vous abonner et à commenter si vous en sentez l'envie. Alors aujourd'hui, période de fête oblige, je me suis dit qu'on allait aborder un sujet un peu plus léger, donc on va parler de Kaamelott et la légende arthurienne. À l'heure du bilan cinématographique de l'année où on sait que le film Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier, a battu des records. Alors comme Arthur, on est de retour et on entre dans le vif du sujet, c'est parti.
Au jour de Pâques, le roi Arthur tenait dans son château de Caradigan la plus riche cour que l'on put voir. Il y avait là moult bons chevaliers, hardis, courageux et fiers, moult nobles et riches dames et demoiselles, filles de rois, gracieuses et belles. Mais avant de renvoyer la cour, le roi fit savoir à ses chevaliers qu'il voulait aller chasser le blanc cerf afin de faire revivre la coutume. Mais Sire Gauvin ne fut pas très heureux d'entendre cette parole. « Sire, dit-il, de cette chasse nul ne vous saura ni gré ni grâce. » Vous savez bien que celui qui parvient à auxir le blanc cerf doit donner un baiser à la plus belle pucelle de votre cour, peu importe à qui elle appartient. Respecter cette coutume sera l'occasion de grands troubles, car il y a bien ici 500 demoiselles de haut lignage, filles de rois, belles et sages, et chacune d'elles a pour ami un chevalier vaillant et hardi, et il prétendra à tort ou à raison que son amie est la plus belle et la plus gente. « Je le sais bien, » répond le roi, « mais je n'y changerai rien pour autant. Parole que roi a dite ne peut être contredite. Demain matin, nous irons tous ensemble chasser le blanc cerf dans la forêt aventureuse. » Chrétien de Troyes, Erec et Enide.
Au crible de l'histoire, Maxime Basile.
L'an 410, Grande-Bretagne. Au terme d'une présence de 4 siècles, Rome rappelle ses soldats de la province. Le moment est mal choisi car la Grande-Bretagne en aurait bien besoin. Mais Rome aussi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. La voie est désormais libre pour qu'une foule de peuples se jette sur la Grande-Bretagne, des Angles, des Saxons, des Scots, des Jutes et des Pictes, évidemment.
Donc les nouvelles frontières sont en jaune. Alors, je sais ce que vous allez me dire. La frontière nord a très nettement reculé à l'intérieur du territoire picte. Mais j'attire votre attention sur la partie orientale des collines de Tintagel qui, elles, ont été cédées au peuple picte. Donc ça équilibre.
Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ça? Je vous demande des terres cultivables et vous me refilez de la caillasse.
Ce que vous appelez de la caillasse, c'est la terre des anciens.
Justement, laissez-la aux anciens et donnez-moi de la plaine.
Les Bretons ne vont pas tarder à être submergés par leurs ennemis. Les Saxons ne viennent pas pour les occuper, mais pour les exterminer. Ces derniers ravagent le pays, brûlent les églises et les monastères. Ils sont encore païens, massacrent les populations locales. Les Bretons se réfugient massivement sur le continent, sur une péninsule située dans l'ouest de la région armoricaine à laquelle ils donneront définitivement leur nom. C'est l'actuelle Bretagne. Une autre partie se réfugie dans les montagnes et de là étant, ils auraient mis en place une résistance conduite par un certain Ambrosius Aurelianus, puis par Uther Pendragon. Et cette résistance à l'oppression saxonne allait connaître ses heures les plus glorieuses avec le fils et successeur d'Uther, un certain Arthur. Seulement, voilà plusieurs décennies que l'histoire de la Bretagne se noie dans la plus épaisse légende. Qui est cet Arthur venu d'on ne sait où pour réparer l'affront des Bretons ? S'agit-il d'un héros tout droit sorti de leurs rêves ou ont-ils juste réuni plusieurs grands moments de leur histoire sous un seul règne afin de se tailler une part de gloire? Toujours est-il que le prestige du roi Arthur grandit à travers les siècles jusqu'à atteindre un niveau européen, universel, interplanétaire même, comme l'illustre l'engouement suscité par Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier.
J'ai été très très fier que le commandant Pesquet aime bien Kaamelott, hyper fier qu'il veuille emmener la série à bord, parce que déjà rien que ça, quand même,
Ça veut dire qu'on est un peu dans l'espace.
Ah ben, c'est pas un peu, on est complètement dans l'espace. Ben on est en micro-pesanteur.
Où est Arthur Pendragon?
Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche.
Approche sur le chemin?
Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde.
Et s'il n'y a personne qui approche, on revient.
Non, vous montez la garde.
Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes, les sièges, vous faisiez pas avant ça?
Bah, oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça.
Ce film a aussi enchaîné les records, tant à l'international qu'en France, près de 3 millions d'entrées au cinéma. Le plus grand succès du box-office français depuis le début de l'épidémie, l'occasion rêvée pour le critique cinématographique de se transformer en historien. On est dans Kaamelott, après tout. Mais avant d'y venir, que dit l'histoire sur ce que les spécialistes appellent le cycle arthurien ? Le premier à avoir mentionné des événements auxquels Arthur aurait pris part est Gildas, dit le sage. C'est un missionnaire né dans l'actuelle Écosse, auteur du tout premier ouvrage historique sur la Grande-Bretagne au début du 9e siècle. Le pseudo Nennius lui emboîte le pas, il est le premier à avoir mentionné le nom d'Arthur. Il affirme que celui-ci, qui occupait une place éminente dans l'organisation militaire bretonne après le départ des Romains, aurait gagné une douzaine de batailles. L'appel Dux Bellorum Nennius finit par faire état des curiosités présentes dans le pays d'Arthur, notamment le tombeau d'Anir, fils d'Arthur, tombeau qui aurait la particularité de changer de taille à chaque fois qu'on le mesurait, anomalie qu'il dit avoir constatée lui-même en le mesurant plusieurs fois.
Là, c'est hyper balèze.
Il n'en fallait pas moins pour éveiller l'intérêt du Gallois Geoffroy de Monmouth, évêque de son état, arrivé 3 siècles plus tard. Et avec la place qu'il fait à Arthur dans son histoire des rois de Bretagne en 1135, il a donné sa substance à la légende arthurienne et tout y est, ou presque. L'intervention prophétique de Merlin, la conception d'Arthur par Uther et Iguerne, femme du duc de Cornouailles, son couronnement, la trahison de son fils, etc. 20 ans plus tard, en 1155, le Normand Robert Wace viendra y ajouter d'autres éléments comme la table ronde, habile stratégie pour contourner le problème de préséance entre les chevaliers. Et alors que l'église de Rome s'affaire à christianiser la chevalerie, notamment par les croisades lancées à partir de 1095, on y ajoute la quête du Graal.
Le Graal, il va vous tomber tout cuit dans le bec, comme ça.
Attends, pas compliqué d'y mettre un peu de bonne volonté.
Moi, j'ai bâti une forteresse quand même.
De quoi ?
Pour le Graal, j'ai bâti une forteresse, moi. Kaamelott, ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde, pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué. Alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal, pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu, parce que c'est pas vrai.
Non mais si, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous.
Chrétien de Troyes viendra, pour sa part, donner un tour plus sentimental à la légende arthurienne. D'ailleurs, il déconcentre le récit de la personne du roi pour le porter de préférence sur les chevaliers qui ne sont plus motivés que par l'amour et par l'honneur de leur dame. Fini la guerre pour la guerre et même pour le pouvoir. Il n'y a plus qu'un seul mobile de toutes les actions.
L'amour. C'est la raison qui me pousse à faire tout ça. L'amour. Que je porte à ma femme, à votre sœur, demi-sœur. Personne ne vous déteste plus qu'elle dans tout le royaume, sire.
Oui, je sais.
Et moi, pauvre fou d'amour, esclave de ses yeux, je ne cherche qu'à contenter ses désirs de vengeance. Me commanderait-elle de venir attaquer vos armées, seule contre 1 million ? Je le ferai sans réfléchir. Alors, pauvre bête dressée, je me suis lâchement exécuté. Missa brevis! Et spiritus maxima, ça veut rien dire, mais je suis très en colère contre moi-même.
Les critiques cinéma aussi sont en colère, mais contre le film, ou plutôt contre la place que ce récit fait aux femmes et aux personnes dites racisées. Média, Combini. L'argumentaire est historiquement farfelu, le raisonnement contradictoire, la prose complexe. Appréciez plutôt. Notons en préambule, c'est l'auteur de Combini qui parle, notons en préambule que l'histoire n'est pas une discipline monolithique. les faits nous parviennent toujours d'un point de vue situé et les artistes comme Alexandre Astier créent leur vision d'une période historique avec leur imaginaire qui découle lui-même de la période historique dans laquelle ils et elles vivent.
J'ai rien compris.
Mais elle ne s'arrête pas en si bon chemin et nous invite à partager sa surprise de constater qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans une histoire de chevaliers et que, je cite, « les protagonistes ne répondant pas à la norme blanche, masculine, hétérosexuelle, bénéficient d'un temps de jeu restreint et de répliques très limitées ». Fin de citation. Bornons-nous à remarquer que si la place des femmes au Moyen-Âge est effectivement moins obscure qu'on le dit parfois, les chevaliers sont exclusivement des hommes, l'Europe est peuplée de personnes blanches et les mentions d'homosexualité restent des exceptions. C'est ce qui ressort de la lecture des chroniqueurs, qu'ils s'appellent Nennius ou Chrétien de Troyes, et les historiens du Moyen-Âge comme Régine Lejean l'expliquent clairement, les chevaliers, des hommes plus ou moins riches qui combattent à cheval, sont des guerriers recrutés par les puissants pour assurer leur activité guerrière.
Guillaume attend le meilleur de Jean parce qu'il aura bientôt besoin de lui. Il compte sur son écuyer pour repousser la prochaine attaque de Vertou, son ennemi juré. C'est pour cette raison que Guillaume précipite les choses et annonce la surprise. Il fait de Jean un chevalier à part entière.
Adoubé, c'est un vieux mot d'origine germanique qui veut dire équipé. Donc équipé, c'est l'épée. Et souvent le cheval aussi. Et le cheval, ça vaut une fortune. Donc le parrain, celui qui a soutenu son chevalier pendant tout son apprentissage, qui l'a reçu chez lui, qui l'a nourri, va consacrer de l'argent à lui offrir cet équipement.
Mais il y a pire, car alors que tous les chroniqueurs donnent Arthur pour mort en 542, Combini écrit, je cite, « On a un chevalier noir dans la légende arthurienne. Il s'appelle Palamède. Il est musulman, noir de peau et se convertit pour rejoindre la table ronde. » Fin de citation. Oui, un musulman en pleine moitié du 6e siècle, un musulman 80 ans avant la naissance de l'islam. La boucle est bouclée.
Occupons-nous des Templiers. Sire, je dis que les Templiers sont des hérétiques.
Étaient, en tout cas. Car si j'ai bonne mémoire de quelques milliers qu'ils se comptaient en France et que vous avez banni, roué ou rôti, il ne vous en reste que 4 en main. Assez embarrassant, je vous l'accorde, puisqu'après 7 ans de procédure, ils viennent encore clamer leur innocence.
Nous savons, Monseigneur, que vous avez toujours appuyé les Templiers. Sans doute comptiez-vous sur eux pour reconquérir, fût-ce à la grande ruine de la France, ce trône fantôme de Constantinople, sur lequel il apparaît que vous ne vous êtes guère assis.
Père ! Sire, mon frère, Dieu m'est témoin, que je n'ai jamais songé qu'à vos intérêts et à votre gloire.
Mon frère, encore une fois, c'est des Templiers qu'il s'agit ce jour.
Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir dans l'île aux Juifs, face au jardin du palais. La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Messire de Nogaret rédigera l'acte, j'ai dit. J'entends que tous ici vous assistiez au supplice. Ceux qui ordonnent doivent aussi regarder. Que notre fils Charles soit lui aussi présent.
Neveu, nous venons d'assister à la fin de la chevalerie.
Depuis le 9e siècle, des dizaines, voire des centaines d'œuvres ont été inspirées de la légende arthurienne, dans une grande quantité de langues et dans tous les champs artistiques. L'histoire d'Arthur, c'est avant tout la résistance des Bretons contre les peuples envahisseurs, le surgissement de ce héros indispensable à l'honneur de ce peuple humilié dans son île. C'est aussi le combat du bien contre le mal, du juste contre l'injuste, du faible contre le fort, idéal qui tombe à pic dans cette période carolingienne où les valeurs chevaleresques sont plébiscitées, comme le montre Régine Lejean dans son Histoire de la France, origine et premier essor. Dès lors, On peut bien sûr transformer César en femme et déplorer que les films sur la passion du Christ n'accordent pas plus de place aux musulmans. L'histoire et l'archéologie restent claires sur ce qu'était la société occidentale au 5e et 6e siècle. Avec le roman courtois, explique Régine Lejean, l'Église réussit cependant à christianiser le fond païen du cycle arthurien. Elle investit les valeurs courtoises en intégrant l'amour de la dame, amour partagé et sublimé, l'omniprésence de la dame et de l'amour. Dans la littérature profane de la seconde moitié du XIIe siècle, traduit une sorte de promotion de la femme à laquelle l'Église n'est pas étrangère.